Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magique, ton roi!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça, la vie. Numéro.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Fantine au micro. Aujourd'hui, je t'emmène en Afrique pour un voyage en vélo avec Quentin. Salut Quentin, comment tu vas?
Salut Fantine, ça va très bien et toi?
Ça va, nickel, merci. Première question, donc du coup, t'es parti en Afrique avec ton vélo. Dis-nous pourquoi, d'où est venue cette idée?
Bah, en fait, moi j'ai toujours, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé l'aventure, être dehors. Et on va dire que ça fait maintenant 3-4 ans que je me rends compte que l'aventure doit faire partie de ma vie. J'aime ça vraiment, c'est ce qui m'anime au fait au quotidien. Et sur cette aventure en Afrique, en fait, j'avais envie de faire une grosse aventure bikepacking. Donc bikepacking, c'est donc en vélo, en ayant toutes ses affaires sur soi, dans des sacoches, etc. Et donc je voulais faire une grosse aventure, mais je ne savais pas où. Donc en fait, j'hésitais entre plusieurs zones sur la planète, l'Amérique latine, l'Asie centrale, donc tous les pays anciens, Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc. Et l'Afrique, je ne l'avais pas forcément envisagé au début. Et j'ai eu la sensation que plus je la mettais de côté, et plus ça devenait une évidence en fait. Et au final, c'était quelque chose qui me paraissait impossible. Et de cette chose impossible, j'ai commencé à me renseigner. Et c'est devenu un projet. Et puis après, c'est devenu quelque chose qui s'est fait finalement. Et la genèse de ce voyage, c'est vraiment l'idée de vouloir faire un gros voyage bikepacking. Et après, ça s'est vraiment devenu une évidence que ça allait se faire en Afrique.
Et plus le vélo que, par exemple, le stop ou la rando ou ce genre de choses?
Ouais, alors, c'est vrai, moi, j'aime vraiment tout ce qui est sport outdoor. Donc, de base, moi, je suis coureur. Donc, j'aime courir, j'aime être dehors. J'ai fait des semi-marathons, trail, ultra-trail. J'ai toujours aimé la course à pied. Et puis, après, globalement, je me suis orienté vers des sports moins de compétition. J'étais moins dans la compétition et plus dans l'aventure. Donc, le dossard, on va dire, m'animait plus pour me faire avancer. Et j'avais besoin de faire du sport dehors pour voir de nouveaux paysages et rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment les deux piliers qui m'animent sur l'aventure. Et le vélo, en fait, c'est plutôt intéressant parce que tu peux couvrir une grande partie du territoire.
Une large surface, c'est que tu avances un peu plus vite, quoi.
Voilà, tu avances assez vite, tu peux faire des bonnes distances tout en voyant de jolis paysages. Et tu vas pas aussi vite qu'une voiture ou un train, tu arrives quand même à bien apprécier les choses. Et donc, du coup, le vélo, c'était vraiment un moyen de transport qui m'intéressait beaucoup. Même avant, je faisais quand même pas mal de vélo. Vélo de route, VTT, puis j'ai découvert le gravel. Et le gravel...
Et c'est en gravel que t'es parti?
Ouais, je suis parti en gravel. Je suis parti en gravel. Et donc, du coup, c'était vraiment... L'idée, c'était de me mettre vraiment au gravel et de le composer avec des sacoches, etc. pour pouvoir partir en autonomie. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avant ce voyage en Afrique, j'avais jamais fait plus de 2 ou 3 jours d'autonomie de voyage en gravel, quoi.
Tu partais pour 6 mois potentiellement.
Et là, je partais pour je suis parti pour 6 mois et je savais pas combien de temps j'allais mettre quand je suis parti, mais l'idée c'était vraiment de revenir en ayant traversé le continent.
Donc l'aventure la vraie.
Exactement.
Et en parlant de ton vélo, je crois qu'il a une particularité.
Ouais, on est proches tous les deux. Tu sais, tu noues des liens avec tes compères, on va dire, d'aventure. Et moi, j'étais tout seul, donc mon seul compère d'aventure finalement, c'était mon vélo. Donc forcément, il fallait que je lui donne un nom, donc je l'ai appelé Riri. Et avec Riri, on a vécu des super belles aventures. Et il n'est pas très bavard, Riri, mais en tout cas, on a vu de belles choses, on a rencontré de belles personnes. Et surtout, en fait, le vélo, c'est un capital sympathie énorme. C'est-à-dire que partout où tu vas avec ton vélo qui est chargé, les gens se posent des questions, sont interloqués, se disent d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, où il va, etc.
Ouais, ça pousse à la discussion et aux échanges.
Ça pousse à la discussion et aux échanges, et surtout en Afrique où peut-être contrairement en France, on va dire les gens sont plus directs et quand ils ont une question, ils viennent te voir directement. Alors qu'en France, tu vois, tu sens peut-être que les gens s'interrogent, mais tu les vois s'interroger de loin et vont peut-être pas forcément venir vers toi de prime abord. Alors qu'en Afrique, quand j'allais dans un village, j'arrivais et j'avais 10-15 personnes autour de moi qui me couvraient de questions en me disant... Qu'est-ce que tu fais, tu vois, c'était vraiment...
Ouais, ils laissent beaucoup plus exprimer leur curiosité, quoi.
Exactement.
D'accord. Et pendant ton voyage, t'as rencontré des personnes qui ont pédalé avec toi ou pas du tout?
Alors, très peu de personnes qui ont pédalé avec moi. J'ai rencontré un autre Français qui s'appelait Tim, qui a pédalé avec moi en Namibie. On a fait un bout de la Namibie ensemble, donc c'était assez intéressant parce qu'on traversait le désert du Namibe. Donc c'est un gros morceau de cette aventure et on l'a traversé en partie ensemble, donc c'était plutôt chouette. On a passé 2-3 jours tous les deux et c'était intéressant de pouvoir passer d'une aventure solo à une aventure en duo. Et,
Ouais, c'est clair, ça devait faire du bien d'échanger aussi. Comme tu disais tout à l'heure, tu étais tout le temps solo sur ton vélo et Kriri n'est pas très bavard, donc du coup ça devait être plutôt
ouais,
cool.
C'est clair. C'est clair que Tim était plus bavard que Riri, ça c'est un énième. et oui, après, c'est une autre gestion, c'est différent. Donc tu fais attention à l'autre, on est deux, donc c'est pas ce que tu ressens, tu l'exprimes et tu dois aussi faire attention à ce que la personne à côté de toi ressent pour pouvoir faire en sorte de kiffer ce bout d'aventure ensemble, quoi, et pas d'être chacun dans son coin. C'est vraiment de le partage et d'être sur la même longueur d'onde, quoi. Donc c'était vraiment plutôt intéressant, surtout qu'on a eu des belles galères parce qu'on traversait des zones ensablées où la piste était complètement ensablée, donc on pouvait
plus rouler.
Donc il fallait vraiment pousser le vélo et pendant parfois plusieurs kilomètres, et c'était assez assez rude, et c'était cool d'être à deux justement pour pouvoir passer un petit peu ces difficultés là et se sentir.
Tu penses que tout seul à pousser ton vélo dans le sable, peut-être que la motive aurait été un peu moins importante?
Après, du coup, avec Tim, on s'est séparés sur la deuxième partie du désert. Et donc, du coup, ça m'est arrivé sur la deuxième partie de séparer, de pousser le vélo tout seul. Et c'est vrai que c'est différent, en fait. Que tu sois tout seul ou à deux, tu mets en place des leviers de motivation qui sont différents. Mais c'est vrai qu'à deux, tu peux te soutenir, tu peux t'encourager, tu peux te dire, bon, lui, il avance un petit peu plus, vas-y, il va me tirer un petit peu, et inversement. Donc ouais, c'est aussi intéressant d'être là. Une grande majorité du temps, j'étais tout seul, mais c'était vraiment intéressant d'être à deux. Et puis, j'ai souvent été accompagné par des locaux, en fait, parce qu'il y a pas mal de locaux en Afrique qui ont des vélos. Ce n'est pas des vélos pour le loisir, en fait, comme moi, pour voyager. C'est vraiment des vélos qui sont des outils de travail, donc qui leur permettaient de transporter des matières premières, du charbon, des énormes sacs de charbon, ou alors des fruits, des légumes, etc. Et c'était chouette parce que quand je l'ai doublé, ils essayaient de pédaler un petit peu avec moi, donc on se mettait à hauteur et puis on discutait, on parlait, et ça pousse le respect, quoi, de voir des gens comme ça qui pédalaient sur des vélos qui sont vraiment dans un sale état, et puis avec des quantités de produits sur leur vélo. C'était vraiment, ça forçait le respect, quoi.
Personne n'a essayé de t'échanger ton vélo?
Ah si. Ah ouais, mais des fois je l'ai échangé. Des fois on a fait des petits échanges où je lui ai dit vas-y, si tu veux, je te laisse mon vélo et j'essaye le tien. Et on l'a essayé pendant 50-100 mètres, quoi. Et c'était assez énorme de lui voir comment il gérait mon vélo et comment moi je gérais le sien. Et c'est drôle. Mais j'ai bien fini l'aventure avec Riri, on pouvait pas.
Jamais t'aurais lâché Riri.
Jamais, jamais.
Et du coup, j'avais une autre question, c'est de savoir s'il comprenait un peu le fait que toi, tu utilises un vélo juste pour te déplacer, enfin, juste pour le plaisir, en fait, pas forcément pour aller au travail.
La plupart du temps, non, c'était assez compliqué pour eux de saisir ça, parce que dans beaucoup de régions que j'ai traversées, en fait, les gens essayent de, non pas de vivre, mais de survivre. Et donc, du coup, leur journée est vraiment dédiée au travail pour essayer de tirer un salaire qui est parfois misérable. Et donc, du coup, c'est uniquement ça pour nourrir leur famille, pour survivre, finalement. Donc, ils ne comprenaient pas, en fait, le fait que moi, je prenais 6 mois de mon année, voire même plus, pour juste pédaler. Et ils se disaient, mais ce n'est pas possible, mais c'est l'État français qui te donne de l'argent, qui te paye pour que tu puisses faire ça et tout. Je leur disais, non, personne ne me paye, justement, je gagne zéro.
Ça serait le rêve.
Ça serait pas mal. Justement, j'économise pour pouvoir avoir suffisamment d'argent et vivre ça. Donc, des fois, c'était un peu compliqué de comprendre, de saisir ça. Et il y a eu des pays, notamment en Égypte, où clairement, on pensait que j'étais un espion, en fait. On avait du mal à comprendre.
Ah oui, il était impossible que tu voyages pour le plaisir, que ce soit juste pour... t'avais forcément une mission ou quelque chose, quoi.
En fait, l'Égypte, c'est quand même un pays où il y a du tourisme, donc ils peuvent comprendre. Mais c'est vrai que ça leur paraissait bizarre que je sois tout seul sur mon vélo, que je veuille absolument traverser le pays, etc. Ça leur semblait louche. Et il y a eu des vrais quiproquos, parce qu'il y a aussi la barrière de la langue en Égypte, qui est un pays donc arabophone. Et donc, moi, je ne parle pas un mot, ou alors j'ai appris quelques mots, mais je ne parle pas du tout l'arabe. Et donc, du coup, tu as des quiproquos qui commencent à se mettre en place sans même que tu t'en rendes compte. Et je m'en suis rendu compte finalement à la fin, où je te donne une anecdote, par exemple. On m'a retenu pendant une journée entière au poste de police. En me disant qu'il fallait que le grand chef du secteur de la police vienne, etc. Donc on commence à discuter, on parle, ça dure toute la journée. Bon, j'étais habitué en Égypte que ça dure longtemps les négociations. Et au bout d'un moment, la nuit commence à tomber, donc ils doivent rentrer chez eux et ils doivent trouver une solution pour moi, savoir ce qu'ils vont faire de moi, quoi. Et je leur dis, bon, bah, il va falloir que vous me libériez, enfin, il va falloir que je continue mon voyage, etc. Et je dis, mais c'est quoi le problème, tu vois ? Il dit, bah, on sait que t'es un espion. Et je dis, mais qu'est-ce qui vous fait penser ça, tu vois? Et en fait, il sort mon passeport que je lui avais donné dans la journée. Et sur mon passeport, il y a marqué « délivré par la préfecture de police ». Et en fait, eux, ils comprennent juste le mot « police ». Donc, ils disent « bon, bah voilà, t'es un policier, t'es un espion, quoi ».
Ah ouais, d'accord.
Et je leur ai dit…
Mais comment tu te sors de cette affaire dans ces cas-là?
Bah, du coup, je leur explique. En fait, je leur ai dit « mais il fallait me le dire depuis le début, en fait ». C'est simplement que la police m'a délivré mon passeport, en fait. C'est pas moi qui suis policier, etc. Et donc, après, voilà, c'est des heures et des heures de négociation pour finalement bah, qu'il te libère et que tu puisses continuer ton voyage, finalement. Mais,
Et tu t'es souvent fait arrêter pendant ton voyage ?
Beaucoup en Égypte, parce que, en fait, l'Égypte, en plus, c'était le premier pays. Donc, en termes de négociation, c'est là où j'ai appris à négocier, quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Égypte, si tu veux, ils ont des touristes, énormément de touristes, mais qu'aux endroits touristiques. Et moi, en fait, comme je traverse le pays, bah, je passe par plein d'endroits qui ne sont pas touristiques.
Oui.
Et il faut savoir que c'est un pays, un état policier. Et donc, du coup, il y a des policiers de partout. Et donc, en fait, moi, je roulais et tous les 15 km, il y avait un barrage policier. Et le barrage policier, en fait, le premier que j'ai croisé, m'a imposé une escorte. Ils m'ont dit, tu ne peux pas en fait, traverser le pays à part si tu as une escorte. Et donc, du coup, il a fallu que je négocie en fait, à chaque barrage de police pendant toute la traversée de l'Égypte. Pour demander aux policiers qui étaient là s'ils voulaient bien m'escorter jusqu'au prochain barrage, quoi. Et donc, évidemment, ils veulent pas, parce que de suivre un pimpin qui roule à 20 km/h, ce que je peux comprendre. Mais je leur dis, voilà, moi, le gouvernement m'impose une escorte policière. Voilà, il faut que vous me suiviez, sinon, moi, j'y vais tout seul, quoi. Et donc, c'est des heures et des heures de négociation. Et tous les 15 km, tu t'arrêtes, tu négocies pendant 2 heures. Eux, ils s'en amusent un petit peu. Et t'arrives à finalement trouver une solution et à ce qu'on t'escorte jusqu'au prochain barrage. Mais ça m'a appris à négocier, ça a mis mes nerfs à rude épreuve. Et puis voilà, c'était...
Ça t'arrivait de perdre patience ?
Comment ?
Ça t'arrivait de perdre patience, ouais ?
Ouais, ça m'arrivait de perdre patience. Après, la première semaine, j'ai regardé comment ça se passait en me disant, bon, bah, voilà, ça reste des policiers, je suis dans un pays étranger, je ne sais pas comment ça se passe, il faut que je découvre un petit peu. Et à partir du moment où j'ai vu qu'en fait, c'était presque comme un jeu pour eux et qu'ils n'allaient pas me toucher, ils n'allaient pas m'emprisonner ou autre, j'ai commencé à négocier différemment. Et donc, tu mets en place des méthodes de négociation qui sont plus ou moins poussées, qui te permettent en fait, d'avancer. Ou par exemple, quand il y avait un barrage de police qui était en plein milieu d'un village, moi, j'adorais ça parce qu'en fait, il y avait des villageois de partout. Donc, quand ils me disaient bah, « tu ne peux pas aller plus loin », moi, je commençais à crier, tu vois. Je disais « ouais, non, ouais je veux avancer, laissez-moi passer et tout. » Et en fait, tous les villageois, tous les Égyptiens, ils sont autour et ils se retournent en disant « mais qu'est-ce que c'est ? On peut parler comme ça à un policier ? C'est un truc de fou. » Parce que la police, c'est des dieux vivants, tu vois.
Ouais, ok.
Après ça, en général, le policier dit « non, arrête, tu fais pas trop de bruit, t'inquiète, on va trouver une solution et tout. » Et donc, quand il y avait des barrages en plein milieu de village, c'était intéressant. La négociation était plus facile, quoi.
Tu savais que t'allais te marier ?
Ouais, carrément, franchement, carrément. Mais bon, je dis ça maintenant, mais sur le coup, ils m'en ont aussi bien fait baver. Donc, il y a eu des passages, des barrages qui étaient très compliqués, où, tu vois, on me menaçait aussi, où on me prenait mon passeport. C'est des policiers, donc c'est les seules personnes à qui je donne mon passeport.
Ouais.
Et des policiers un peu zélés qui te prenaient ton passeport et qui te disaient, maintenant, tu montes dans cette camionnette et on t'emmène en voiture, sinon ton passeport, on le brûle, tu le reverras jamais. Voilà,
T'as dû monter dans une camionnette ?
Bah du coup non, parce que moi j'étais dans la négociation, donc là j'avais encore négocié pour... Bon, en fait c'est juste des méthodes pour t'impressionner, mais...
Ok, ouais, des menaces...
Voilà, faut juste arriver à comprendre, et moi j'avais pris une semaine pour comprendre aussi ce qui se passait dans ce pays-là, et voilà, ça aurait été un tout autre pays, ça aurait été une autre atmosphère, une autre politique, j'aurais pas fait ce que j'ai fait en Égypte. Là,
d'accord, tu l'as traversé en combien de temps l'Égypte ?
Bah j'ai presque mis 3 semaines pour le traverser, donc
entre
3 semaines et 1 mois. Sur mes 6 mois d'aventure, en fait, je suis resté ouais, presque 1 mois en Égypte, quoi.
Ah ouais, quand même. Et du coup, en parlant de justement l'Égypte et ton aventure, ça a été quoi, donc, ton périple, ton itinéraire ?
Donc en fait, c'est la traversée de l'Afrique du nord au sud. Donc je suis parti d'Égypte, du Caire, et l'idée c'était d'arriver en Afrique du Sud, au Cap. Donc c'est un itinéraire qui s'appelle le Caire-le Cap, en passant plutôt par la côte est. Donc en fait, j'ai traversé 10 pays, j'ai fait l'Égypte, le Soudan, l'Ouganda, Kenya, Tanzanie, Malawi. Après le Malawi, j'ai commencé à prendre la direction de la côte ouest, où j'ai fait Zambie, Botswana, Namibie, et après j'ai longé la côte ouest pour faire Namibie, Afrique du Sud.
Ah ouais, magnifique, un itinéraire vraiment
Ouais,
qui te
c'était
faisait
génial.
traverser plein de paysages et des cultures différentes, j'imagine.
Ouais, complètement. Bah, on parlait de la partie arabophone avec l'Égypte, le Soudan, et puis tu arrives dans une Afrique subsaharienne, tout ce qui est Ouganda, Kenya, qui est vraiment complètement différent, où bah, la couleur de peau change, les religions, la façon de vivre, la façon de penser, enfin, énormément de choses changent, et hyper intéressant. Et puis après, quand tu vas plus dans le sud de l'Afrique, l'Afrique australe, c'est une Afrique qui est un petit peu plus développée, notamment avec l'Afrique du Sud qui est un des poumons de l'Afrique finalement et qui distribue aussi toutes ses ressources et ses matières premières dans les pays aux alentours. Donc c'est des pays qui sont plus développés où voilà, j'ai pu retrouver un certain confort avec des supermarchés, des hostels, etc. Des choses intéressantes. Mais c'est intéressant en fait de pouvoir voir les différences entre les différents pays de l'Afrique. Ouais.
Ok. Et du coup, tu t'étais renseigné avant de partir sur toutes bah, les commodités, enfin, tout ce qu'il fallait savoir sur chaque pays que tu allais traverser?
Globalement, oui, je m'étais quand même renseigné. J'avais pas fait non plus une étude précise et pointue de chaque pays, mais je m'étais renseigné, j'avais à peu près une idée de mon itinéraire à l'avance. Voilà, je savais aussi, je m'étais renseigné par rapport bah, aux choses à voir. J'avais envie de voir certaines choses dans certains pays, donc je m'étais renseigné à ce niveau-là. Mais aussi poussé sur les différentes cultures, les différentes façons de parler, les dialectes, les choses comme ça. Non, ça, je l'ai vraiment découvert sur place. Après, c'est, voilà, je m'étais renseigné sur, voilà, globalement, surtout si c'était par rapport au visa, savoir s'il y avait des visas que j'allais devoir faire un petit peu en amont ou autre, les situations aussi géopolitiques de chaque pays. Il y avait des pays qui étaient un petit peu plus instables que d'autres, donc je m'étais renseigné aussi en amont. Et voilà, des commodités, comme tu disais, qui me semblait essentiel. Après, je ne savais pas exactement en partant quel jour j'allais faire quelle distance, dans quel pays,
Oui,
etc.
j'imagine.
C'était vraiment, je partais, j'avais une idée globale, je m'étais renseigné, je ne partais pas non plus la fleur au fusil. Je savais ce que je faisais. Et après, je savais aussi que bah, l'aventure, ouais, elle se fait sur le terrain et que énormément de choses se découvrent aussi sur le terrain. Donc voilà.
Oui, tu te laisserais surprendre forcément par beaucoup de choses qu'on ne
Ouais.
trouve pas forcément en amont, quoi, quand tu prépares. Mais t'es parti à quel moment? T'es pas parti au moment du Covid?
Si, je suis
Et
parti au
ça,
moment.
alors, ça a changé quelque chose?
Ça a été compliqué en fait parce que quand je suis parti, en fait, je suis parti. Il y avait une situation qui était très tendue au niveau du Covid, notamment avec le variant sud-africain qui venait de se développer.
Ah oui.
Donc du coup, l'Afrique du Sud, c'était quand même ma destination finale. Donc je me suis dit bon, c'est pas l'idéal s'il y a un variant qui commence à se développer là-bas. En plus, il y avait l'Éthiopie qui entrait en guerre assez sérieusement. Et le Soudan qui venait d'avoir un coup d'État ou un putsch militaire venait de prendre le pouvoir. Donc en gros,
Oui, donc beaucoup d'événements quand même.
voilà,
Ça
trois
t'a pas
sur.
dit, enfin ça t'a pas fait changer ton itinéraire?
Non, 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 non. Moi en fait, j'avais une seule crainte, c'était de me dire qu'on me bloque en France. En fait, on était vraiment au moment du Covid et il y avait encore des couvre-feux. Non, pas des couvre-feux,
Des confinements?
des confinements, merci, il y avait encore des confinements, etc. Et j'avais juste une peur, c'est d'avoir pris mon billet d'avion et qu'on me dise la veille, bah, tu dois rester confiné chez toi et tu peux dire au revoir à ton périple, quoi.
Ouais,
Donc,
l'horreur.
ma seule hantie, c'était ça. Et à partir du moment où j'ai pris l'avion, où j'étais sur le sol égyptien, je me suis dit, je suis en Afrique, je vais commencer mon périple et je verrai en fonction de la situation comment ça évolue dans chaque pays, sachant que. Le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, c'est des pays que j'atteindrai pas avant plusieurs semaines. Et donc, on est sur un continent aussi qui est très mouvant, qui bouge beaucoup. Donc voilà, je restais très informé, oui, au fait de toutes les informations de chaque pays. Mais en partant en France, je me suis jamais dit j'annule mon voyage parce qu'il y a un variant sud-africain, parce qu'il y a une guerre civile, parce que ça. Je savais que
Ok,
j'allais
toi, une
pouvoir
fois que t'étais
rester.
en Afrique, c'était réussi, quoi. Enfin,
Pour moi,
après,
ouais.
parce que t'aurais très bien pu rester bloqué finalement dans un des pays, mais
Complètement.
ça te
Ouais.
faisait moins peur.
Ça me faisait moins peur. je savais que j'étais sur le continent et si j'aurais dû rester à un moment donné sur un pays, bah, je l'aurais fait. En fait, parce que moi, je suis parti à un moment, je suis parti dans ma tête en me disant, je pars en Afrique et je reviendrai uniquement quand j'aurai fini cette aventure. Donc, que ça prenne 3 mois, 6 mois, 8 mois, peut-être pas 3 ans non plus, mais que ça prendrait le temps que ça prendrait et je serais rentré au moment où j'aurais terminé cette aventure, en fait. Donc, le plus important pour moi, c'était d'être directement sur ce continent et après, advienne que pourra, entre guillemets, j'arriverai forcément à m'adapter sur les différentes difficultés ou autres. Et c'est ce qui s'est passé parce que, notamment en Éthiopie, j'ai pas pu y aller. Ils avaient complètement fermé les frontières dû à la guerre civile.
Ah
donc,
oui.
j'ai dû contourner ce pays. Et il y avait une bande terrestre instable aussi sur le Soudan du Sud, etc. Donc, j'ai pris un avion pour sauter cette bande terrestre et atterrir en Ouganda.
Ouganda,
que j'avais pas prévu sur mon voyage, tu vois, par exemple. Donc, c'est ça aussi l'aventure. Tu pars, mais tu t'adaptes, en fait. Il y a toujours énormément de choses qui peuvent se passer, des choses que tu ne maîtrises pas du tout ou des choses que tu peux maîtriser, mais qui te font changer d'itinéraire ou de façon de voir les choses. Et tu t'adaptes, en fait. C'est juste ça.
Oui, c'est hyper compliqué de tout anticiper sur un voyage.
Et c'est même pas le but, en fait.
Ouais, enfin, c'est te laisser vivre.
Vraiment tu as un projet et puis tu pars. Et même au cours de ton voyage, peut-être que ton projet va changer. Et tu vas aller vers quelque chose qui te tente plus, et bah c'est ok, tu vois. Et tu y vas, et l'idée c'est aussi de se laisser un petit peu guider, de se laisser porter par le voyage, par l'aventure, et de se dire, bah voilà, moi mon idée elle était de traverser le continent, j'ai gardé cette idée là jusqu'au bout, mais peut-être qu'à un moment donné j'aurais pu me dire, bah finalement j'ai plus envie, j'ai plutôt envie d'aller directement sur la côte ouest, et bah j'y serais allé en fonction des difficultés et des possibilités, mais. Voilà, tu pars avec une idée en tête et c'est ok de se dire qu'elle peut changer et complètement être modifiée en cours de route, quoi.
Ouais. Et donc, du coup, t'avais pas prévu plutôt le nombre de mois que tu resterais là-bas et ça s'est fait en 6 mois, c'est ça?
Exactement.
Et j'ai une question peut-être plus perso, mais niveau financier, comment tu t'organises pour vivre, enfin, pour pouvoir te dire, je pars et je verrai combien de temps ça dure?
Bah, du coup, moi, en fait, je travaille à mon compte. Je suis à mon compte dans l'événementiel sportif. Donc, je travaille une certaine période de l'année. En général, je travaille 5 mois dans l'année. Et le reste du temps, je pars à l'aventure.
Là... Sympa.
Ouais, c'est pas mal. Et là, après, si tu veux, c'est aussi... moi, je suis complètement nomade. Donc, j'ai pas d'attache, j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de maison, etc. Donc, je vis très simplement. J'ai un mode de vie qui est très simple. Et quand je travaille sur événement, je suis donc sur événement. Je suis nourri et logé. Et quand je suis en aventure, je suis dans ma tente et, et je mange ce qu'il y a à manger, quoi. Mais en gros, j'ai un mode de vie très simple. Je n'ai pas beaucoup de dépenses, on va dire, mensuelles. Et donc, je peux me permettre de travailler 5 mois dans l'année. Ça couvre vraiment toute mon année, quoi.
D'accord. Et donc,
pour cette aventure, j'avais mis suffisamment de côté en me disant, je vais partir. J'avais estimé aussi que ça n'allait pas prendre plus d'un an. Et j'avais mis suffisamment de côté. En me disant, ça devrait le faire. Si ça ne l'aurait pas fait, j'avais pas forcément anticipé ça. J'ai quand même des comptes avec de l'argent ou que j'aurais pu débloquer ou autre. Mais sinon, j'aurais peut-être pu m'arrêter pour travailler à tel ou tel endroit. Pareil, j'aurais trouvé une solution. Il y a toujours des solutions tout le temps. D'accord.
Voilà. Et justement, si tu avais dû travailler, tu t'étais renseigné de comment ça se passait dans chaque pays ou pas forcément?
Non, pas forcément. En fait, si tu veux, j'étais pas parti du principe que j'allais travailler. Mais si ça aurait dû se passer, j'aurais trouvé, en fait. L'idée, c'est toujours ça, c'est de s'adapter, c'est de trouver des solutions. Et des solutions, il y en a toujours, en fait. Il y a toujours des solutions. Donc, je pense que si j'avais dû travailler, ça aurait été plutôt vers la fin de mon périple. Et oui. Donc, comme je te disais, sur de l'Afrique australe, avec des pays qui sont un petit peu plus développés, j'aurais pu réussir à gagner un peu plus d'argent que si j'avais dû travailler au Soudan, par exemple, ou... Le taux de pauvreté est assez fort et où ce que un Soudanais moyen va gagner va être beaucoup moins important que ce que va gagner un Namibien ou un Sudaf, quoi.
Oui, ok. Cette aventure, tu voulais forcément la faire tout seul.
Ouais, je voulais la faire tout seul, cette aventure, parce que pour plusieurs raisons. Enfin, déjà, je suis assez solitaire de base, donc ça me dérange pas du tout d'être seul. Et
oui, mais 6 mois quand même.
Moi, ouais. Mais en fait, ce qui est assez compliqué, c'est déjà de trouver une personne qui soit dispo pendant 6 mois, parce que les gens
c'est pas faux,
la plupart des gens travaillent toute l'année finalement et ont pas 6 mois de côté, et en plus de trouver une personne qui soit dispo 6 mois et qui qui me supporte et que je supporte, c'est enfin voilà, il faut aussi partir avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi, parce que tu vas vivre H24 avec cette personne pendant plusieurs mois, quoi. Et donc c'est pas évident à trouver, des compagnons d'aventure.
C'est l'avantage de Riri.
C'est l'avantage de
Riri. On est sûr qu'il te supporte.
On est sur la même longueur d'onde avec Riri, je te le dis. Hein. Et donc du coup voilà, mais après moi j'aime bien partir tout seul parce que ça, j'arrive à, enfin tu rencontres énormément de gens, c'est aussi un travail d'introspection. Enfin moi j'ai vraiment l'impression de que c'est presque une thérapie en fait de partir seul, t'es seul sur ton vélo ou à pied ou autre. Et je sais pas, moi quand je m'ennuie jamais, les gens me disent mais tu t'ennuies sur ton vélo, ça doit être terrible et tout. Et je pense énormément, je réfléchis énormément, je note des choses, j'écris, enfin il y a énormément de choses qui se passent et tu prends beaucoup de recul aussi sur la vie, sur la société, tu te poses des questions existentielles. Et en fait j'ai l'impression que partir seul, c'est vraiment à ce moment-là en fait où je me pose toutes ces questions et où je prends ce recul-là. Là tu vois, je suis en période d'événements où je travaille énormément. Et j'ai pas en fait ces périodes-là, ces temps-là de prise de recul, de prise de hauteur, et je me pose pas toutes ces questions, et ces questions-là, je me les pose qu'en aventure, quoi.
D'accord, ok. Et quand tu rentres, du coup, d'aventure, toutes ces questions que tu t'es posées, il n'y a pas un gros décalage entre ce que tu vis au moment où tu rentres ?
Si, il y a un décalage, mais ça dépend quelle aventure. Là, je sais que sur cette aventure en Afrique, le retour a été très très compliqué. Parce que ouais, il y avait un décalage, mais qui était énorme entre ce que j'avais vécu pendant 6 mois et ce que on vit dans notre quotidien ici en France, où on vit dans une ville de luxe, on est riche, on a énormément de moyens de vivre bien en fait, et moi ça a été compliqué en fait, le fait de revenir et de voir énormément de gens se plaindre. Alors oui, ça fait partie de notre culture, on est en France, on se plaint, etc. C'est normal. Mais enfin, c'est normal. La société veut que ce soit notre pays.
Oui, on ne sait pas si c'est normal, mais...
Mais en fait, moi, ça m'a supporté en fait, de me dire que les gens se plaignent pour un rien, alors qu'on a tout, en fait. À partir du moment où tu as un toit, tu as de la manger dans ton frigo, tu ouvres un robinet, tu as de l'eau potable qui en sort, tu tournes ton robinet à gauche, l'eau devient chaude. Enfin, tu vois, des trucs qui paraissent
normaux. Oui, ça nous paraît anodin et ce serait magique pour eux, quoi.
C'est ça, et c'est des choses qui sont en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout le monde n'a pas cette chance là et au début, donc le fait voilà que les gens se plaignaient, mais aussi le fait de je me sentais presque injuste en fait, de me dire pourquoi moi j'ai accès à tout ça, pourquoi j'ai cette chance là de pouvoir prendre une douche, de pouvoir être dans une maison qui est grande, qui est propre, d'avoir un toit, avoir à manger, etc. Et pourquoi des gens que j'ai rencontrés qui sont infiniment plus bons, plus purs, n'auront jamais un dixième de ça. Et en fait, ça a été très compliqué.
La culpabilité ?
Un petit peu, franchement, un petit peu, ouais. Au début, j'étais sous ma douche et j'étais pas bien. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai cette chance-là, quoi ? Et puis, bon, ouais. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me douche.
J'allais donc, te demander si, du coup, t'avais plus pris de douche.
Non, j'ai continué à prendre des douches. Mais en fait, l'idée, c'est juste de se dire, voilà, en fait, les choses sont telles qu'elles sont, mais il faut juste en être conscient, en fait. Il faut juste être conscient de la chance qu'on a. Et, oui. De cette richesse qu'on a là, tu peux pas te dire bon bah je vais arrêter de prendre des douches parce que sur trois quarts des pays sur cette planète, les gens n'ont pas toute la richesse qu'on a là, etc. Mais oui. Il faut juste en être conscient, quoi. C'est simplement ça.
C'est un message que tu essayes de faire passer ou pas forcément, du coup?
Ouais, c'est un message que j'essaye de faire passer. Après, c'est pas un combat non plus. Je veux dire, c'est pas un combat. Je vais pas dire aux gens d'arrêter de prendre des douches ou. Mais oui, essayer de mettre en perspective ça dans certaines conversations en essayant de se dire mais on a de la chance. Et même moi, je me le dis en fait au quotidien, parce que tu es dans un monde où un quotidien où tu te rends même plus compte de ça en fait. Moi, j'ai vécu pendant 6 mois dans des conditions qui étaient plutôt compliquées. Et en fait, c'est très facile de revenir dans cette vie luxueuse qu'on a nous. Parce que,
on s'habitue vite, oui.
On s'y habitue extrêmement vite, tu vois. Et donc, c'est aussi peut-être pour ça que je pars. Et je pars en aventure pour à chaque fois me rendre compte de cette chance-là, parce que c'est bien de partir, mais c'est énorme, c'est génial de revenir pour se rendre compte de la chance qu'on a de vivre en France, dans la globalité, dans notre société.
Oui, des petites piqûres de rappel.
Ouais, complètement.
Et outre le fait qu'effectivement, tu te rends compte que toi, tu as quand même beaucoup de choses et qu'eux n'ont pas ces mêmes chances, le fait d'être seul pendant 6 mois, quand tu reviens, c'est pas hyper agressif, entre guillemets, de se retrouver au milieu de tout le monde et au milieu de la foule?
Bah écoute, non, parce que en Afrique, j'étais seul sur mon vélo, mais globalement, il y avait beaucoup de monde. Il y avait
D'accord.
énormément de monde. C'était notamment dans certains pays avec un taux de population, une démographie qui était très forte. Il y avait du monde de partout. Je pense notamment à l'Ouganda où il y avait vraiment du monde de partout. Je roulais, il y avait vraiment énormément de monde, etc. Si bien que ça en devenait compliqué de planter la tente parce que
Ah oui, à ce point-là.
j'avais pas de. En fait, au tout début, quand je suis arrivé en Ouganda, je cherchais des endroits comme j'avais pu avoir au Soudan, des endroits désertiques, en fait, des endroits où je pouvais poser ma tente seule, être seul et me reposer vraiment. Et en fait, en Ouganda, j'ai pas trouvé ça parce qu'il y a du monde vraiment de partout. Il y a une densité de population qui est très forte. Et
D'accord.
je me rappelle très bien du premier jour où j'ai voulu chercher un endroit vraiment isolé. Et j'ai réussi à le trouver sur le bord d'une rivière, alors qu'il y avait du monde de partout toute la journée. J'étais content de trouver cet endroit un peu isolé. Je commence à monter ma tente. Et là, j'entends une voix derrière moi qui me dit, bah, salut, tu fais quoi et tout? Je me suis dit, putain, bah merde, je voulais être tout seul. Et au final, et je lui dis, bah, je suis en train de monter ma tente pour passer la nuit. La personne me dit, mais tu peux pas faire ça. Je dis, bah, pourquoi je peux pas faire ça? Il me dit, bah, le terrain sur lequel tu installes ta tente, il est à quelqu'un. Donc, il faut que tu te demandes l'autorisation pour pouvoir planter ta tente. Et
Ah
je lui
oui,
dis, bah ouais,
d'accord.
t'as raison, ça a du sens. Et donc, du coup, en fait, à partir de ce moment-là, et ce premier jour en Ouganda, je me suis rendu compte que il fallait, pour planter ma tente, demander l'autorisation à la chef ou au chef du village.
Tu le trouvais forcément?
Oui, en fait,
D'accord.
ce jour-là, donc cette personne qui m'a surpris m'a ensuite emmené en direction de la chef du village. C'était une chef du village. Et après, tous les jours qui ont suivi, dès que le soleil commençait à tomber, j'allais dans un village et je demandais directement le chef ou la chef du village pour pouvoir échanger avec lui ou elle et lui demander si je pouvais poser ma tente, quoi.
Ah ouais, c'est fou. Et t'as
Ouais.
toujours eu un accord, on t'a jamais refusé.
Non, on m'a jamais refusé. On m'a jamais refusé. Après, des fois, on m'a orienté vers d'autres solutions.
D'accord.
C'est à partir de là aussi où j'ai découvert que je pouvais dormir dans les stations de police. Donc,
Ah oui?
ouais. En fait, j'ai beaucoup dormi en station de police sur mon aventure en Afrique. Et en fait, surtout dans les endroits où il y avait des grosses villes, où c'était un petit peu moins. Enfin, il y avait pas mal d'endroits qui étaient un petit peu moins safe. Ou comme dans les grosses villes en France finalement où tu vas pas
Oui.
forcément sortir ta tente, et ben là j'allais directement en station de police, je leur expliquais, je leur disais bah voilà je traverse l'Afrique, est-ce que je peux poser ma tente chez vous? Au début c'était un petit peu surpris, et ils me disaient mais pourquoi tu veux faire ça? Je dis bah je cherche un endroit sécurisé, pour moi la station de police c'est l'endroit le plus sécurisé de la ville. Ils me disent bah ouais t'as raison, vas-y prends ta tente. Et donc du coup à plein de moments en fait je me suis les policiers étaient vraiment mes alliés. Et je me suis servi aussi des stations de police pour pouvoir planter ma tente et dormir en sécurité.
D'accord. T'as dormi en tente tout le long de ton voyage?
Ouais, j'ai dormi en tente tout le long de mon voyage. Après, je refusais pas l'hospitalité quand on m'a invité. Tout au long du voyage, on m'a invité quelques fois quand même pour dormir chez l'habitant. Si je le sentais bien, j'y allais vraiment volontiers parce que ça amenait toujours des soirées, des moments qui étaient extraordinaires. Mais
J'imagine.
j'avais. Comment?
J'imagine, ouais, ça devait être magique. C'est unique ce genre de moment.
Ouais, clairement. Franchement, c'était top. Mais tu vois, contrairement à d'autres aventures que j'ai pu faire, je cherchais pas l'hospitalité. Donc j'avais ma tente, je dormais dans ma tente, et si jamais on me proposait, si jamais voilà, on commençait à discuter, on me proposait, j'acceptais l'hospitalité, mais c'était pas ce que je recherchais de prime abord.
D'accord. Et on te l'a souvent proposé ou quand même peu par rapport au prorata que tu as passé sur le continent?
On me l'a peu proposé. On me l'a peu proposé, mais comme je te disais, j'étais pas forcément à la recherche de ça. Donc en fait, moi, le soir, je cherchais plutôt des endroits calmes pour être un peu isolé, pour planter ma tente. Et on me l'a proposé quand voilà, il y avait des super échanges ou quand en fin d'après-midi, je commençais à rencontrer du monde. Je pensais à une soirée extraordinaire au Soudan où fin d'après-midi, je commençais à rouler en direction des. Il y avait des pyramides, des super belles pyramides, et je voulais me
Oui.
rapprocher pour pouvoir les voir au lever de soleil. Et je vois un gros groupe dans un village, un gros groupe d'enfants qui jouent au foot et qui m'interpellent. Donc je me dis, bah vas-y, go, je vais me faire un foot avec eux et tout, ça va être trop cool. Et au final, on a passé la fin d'après-midi à jouer au foot tous ensemble, c'était des super moments. Et le soir, ils m'ont dit, bah qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah je pensais avancer un petit peu pour planter ma tente pour dormir. Et là, ils m'ont clairement invité. Ils m'ont dit, bah non, on a de la place pour toi, viens manger, viens dormir à la maison, etc. C'était une grande famille qui m'a accueilli avec tous les enfants du village et on a mangé tous ensemble. Et après, il y a le doyen du village qui est venu, qui a joué de l'instrument, on a tous dansé ensemble et tout. Et c'était...
Oh, fou!
C'est une de ces soirées-là qui est extraordinaire, en fait, qui est extraordinaire. Et peut-être que je me dis que si j'aurais plus forcé l'hospitalité chez les gens, peut-être que j'en aurais encore plus vécu. Mais d'un côté, j'aimais aussi être dans ma tente et me reposer un petit peu. Donc j'ai eu des soirées animées, des soirées chez les locaux, des soirées seules dans ma tente. Et ça a fait un équilibre qui me convenait totalement, quoi.
Ok, et puis en plus, quand c'est spontané, c'est peut-être un peu plus...
Ouais, complètement.
Un peu plus sympa, tu vois, il n'y a rien de...
Cette soirée-là, moi, je la garde en mémoire parce qu'elle était extraordinaire et comme tu dis, c'est vraiment spontané. Ça s'est fait comme ça et ça a été un découlement et ouais, c'est l'une des soirées peut-être les plus marquantes de cette aventure, quoi. Bon, ils sont meilleurs que moi au foot, mais...
Oui, on peut se rendre compte de pas mal de choses. Et tu roulais tous les jours ? Ou tu te prenais des jours de pause, des jours off ?
Je me prenais des jours de pause. En fait, sur cette aventure, j'ai vraiment appris à écouter mon corps. Parce qu'en fait, ton corps, c'est une machine, c'est ce qui te fait avancer finalement.
Ouais, ouais.
Et donc, du coup, il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de ton corps. Donc, moi, ça passait beaucoup par la nourriture, où je me faisais vraiment plaisir. Mais ça
passait. T'arrives à manger pour... toujours à ta faim ? Excuse-moi.
Ah ouais, largement.
Ok. C'est important.
Ah ouais, c'est important. Après, à part sur les sections désertiques, j'ai traversé 3 déserts, donc sur les sections désertiques, là,
tu l'anticipes.
Tu dois emporter ta nourriture, tu es en autonomie sur plusieurs jours, donc tu ne manges pas forcément à ta faim ou tu fais attention parce que tu te rationnes. Mais sinon, dans la plupart des pays que j'ai traversés, il y a toujours des petites échoppes sur le bord de la route, énormément de street food en Afrique et finalement, en fait, quand je te disais qu'il fallait écouter mon corps, des fois, j'essayais de pas trop l'écouter parce qu'à chaque fois que je passais dans un village, mon corps, il me disait « Ouais, bah, pourquoi pas, allez, viens, on va manger un petit peu. » en fait, si t'écoutes trop ton corps, tu fais que bouffer, quoi. Enfin, si t'écoutes trop mon corps, écoute, tu fais que bouffer toute la journée. Donc non, je prenais soin de lui, je prenais soin de moi, finalement, en mangeant correctement à ma faim et même plus qu'il ne fallait et aussi en ayant des moments de calme et de repos. Et donc ça, voilà, je prenais des guest house ou des petites... des fois, c'était vraiment des petits boui-boui, mais je me reposais pendant une journée ou deux. Et puis, ça permettait vraiment de se reposer. Et même aussi sur des endroits que j'avais envie de visiter ou autre. Donc, je prenais le temps, vraiment. L'idée, c'était vraiment de prendre le temps. Je n'étais pas sur une compétition, ce n'était pas une course. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'aller au bout, mais en prenant mon temps et en écoutant.
Oui, vraiment en t'écoutant. Et donc, du coup, tu n'avais pas des jours définis de non. repos, c'est vraiment non. quand tu le sentais.
Exactement. Quand je le sentais, des fois, voilà, une journée, je suis parti, j'ai fait 11 km, je crois, et puis j'ai rencontré des gens géniaux et je me suis dit, bon, bah voilà, pourquoi continuer alors que là, on pourrait passer une super journée. On a passé une super journée, je suis reparti le lendemain et c'était vraiment au feeling, quoi. Et des fois, au contraire, tu as des petites douleurs. Des fois, tu as ton genou qui commence à grincer un peu, tu te dis, oula, bah, peut-être qu'il faut que je me calme un petit peu. Et en fait, ton corps t'envoie des signaux, il te dit quand il y a un problème. Et après, c'est à toi de trouver le problème. Est-ce que tu t'es mal hydraté, tu n'as pas assez mangé? Est-ce que tu as des mauvais réglages sur le vélo? Il faut peut-être rehausser ta selle. Est-ce que tu forces un peu trop sur la mécanique? Enfin, il faut essayer de comprendre ton corps, s'adapter, parce que tu dois durer, quoi. Il faut que ça dure plusieurs mois et il faut aller au bout, quoi.
Ouais, il faut que ça dure. Et Riri aussi, il faut qu'il dure. T'arrivais à trouver... Enfin, t'avais tout le matériel pour faire des petites réparations ou t'arrivais à trouver des magasins parfois ?
En fait, l'Afrique, c'est le continent de la débrouille. Donc, en fait, je savais que même si j'allais avoir des galères mécaniques, j'allais trouver des solutions. En fait, D'accord. c'est assez drôle, mais quand tu as un problème, dans la plupart des villages, j'ai remarqué ça en Afrique, hein, quand tu as un problème, tu vas en parler à quelqu'un. Voilà, j'ai un problème mécanique, j'en parle à quelqu'un. Et en fait, ce problème-là devient son problème. Et en fait, ça peut devenir le problème de son copain, de son collègue, même de tout le village, tant qu'on
du
a pas...
Du village, oui.
Et donc, en fait, c'était assez fascinant de se dire que bah, y avait une vraie solidarité, une vraie entraide. Et peu importe le souci que j'allais avoir, en tout cas, j'ai pas eu des soucis qui n'ont pas été solutionnés, quoi. Peu importe le souci que j'allais avoir, j'allais trouver au moins une solution, quoi. Et je ne me reposais pas là-dessus, mais en tout cas, je savais que si à un moment donné, j'allais avoir un souci, j'allais trouver une solution forcément. Donc, ça rassure aussi un petit peu d'être dans des endroits où les gens sont aussi bons, sympas et veulent vraiment que ça se passe bien pour toi et pour la communauté entière, quoi.
Ouais, cette bienveillance, elle doit vraiment faire du bien quand même.
Ouais, complètement, complètement. Et donc, j'ai eu pas mal de soucis mécaniques. J'en ai eu énormément avec Riri. Forcément, tu peux t'imaginer qu'en 6 mois de vélo, 11 000 km,
il faut aussi, obligé de...
Il faut entretenir un peu le vélo. Il y a il y a les plaquettes de frein qui fonctionnent plus ou qui fonctionnent mal, et pas mal de petites crevaisons. Des choses comme ça. Et puis, l'entretien aussi régulier au niveau de la chaîne, au niveau de la transmission, etc. Et j'ai eu des rayons aussi qui ont pété, donc il a fallu que je trouve une jante de 29 pouces en plein milieu de l'Afrique, compliqué.
Facile.
Tu vois, des petites galères comme ça, mais finalement ça s'est fait, j'ai trouvé des solutions, il y a toujours eu des gens, une chaîne humaine qui s'est formée et qui a fait que mon aventure a pu se réaliser et a pu se terminer, quoi.
Ah, c'est top ça. Et du coup, quand tu te reposais les jours off, tu disais que parfois tu prenais une guest house ou même un petit boui-boui, tu te posais. T'avais jamais peur qu'il arrive quelque chose à ton vélo ?
En fait, non. C'est ça qui est assez dingue, c'est que j'avais pris un antivol, mais je le mettais pas souvent, mon antivol.
D'accord.
Parce que même en fait au quotidien, quand j'allais dans un village, j'arrivais dans un village et j'allais manger dans le village. En général, c'était pour aller manger, donc je posais mon vélo devant en fait t'as une route et t'as un village qui est un petit peu autour, quoi. Je posais mon vélo à côté de la route et en général je parlais à un commerçant à côté, je dis je vais manger, je vais faire un tour, est-ce que tu peux juste jeter un coup d'œil sur le vélo, quoi. C'était vraiment pour me protéger moi et m'assurer qu'il se passe rien, quoi. Mais en tout cas j'allais après faire mon tour, je parlais aux gens, je mangeais, etc. Et je revenais peut-être une demi-heure, une heure après, je savais que personne n'aurait touché le vélo. Et en fait, c'est pas forcément dans la culture de se dire je vais prendre ce vélo, parce que déjà ils savent que c'est pas un vélo local, etc. Et puis même c'est très dans pas mal de villages c'est très communautaire, c'est-à-dire que si une personne de la communauté va faire quelque chose de mal, ça va, toute la communauté en fait va être impactée par ce problème-là. Et en fait, les gens n'ont pas envie que leur communauté soit tachée, soit mal
vue. Soit mêlée à... Oui.
Exactement. Donc en fait, il y a une espèce de bienveillance. Et si une personne va faire quelque chose de mal, elle va être rapidement rappelée à l'ordre par les autres, voire punie par les autres. Et ce qui fait qu'en fait, moi, je ne sentais pas du tout en insécurité personnellement. Et encore moins pour mon vélo, je ne sentais pas qu'il pouvait se faire voler. Après, c'est des généralités, il faut faire attention dans chaque pays ou autre. Tu vois, par exemple, l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus développé que j'ai traversé, c'est le pays où je faisais le plus attention à mes affaires, où je faisais le plus attention à moi, à ma sécurité, etc. Parce qu'on m'avait prévenu. Et c'est assez marrant de se dire en fait, que plus le pays est développé, plus il faut que tu fasses attention à tes affaires, quoi. Et moi, tous les pays sous-développés ou en voie de développement que j'ai traversé en Afrique, c'est des pays où j'ai eu aucun problème à me dire « je laisse mon vélo là ».
Ouais, parce que autant te dire qu'à Lyon, moi, je ne l'ai pas retrouvé, mon vélo.
Voilà, quelle idée de traverser Lyon, va donc traverser l'Afrique.
C'est ça, j'y penserai la prochaine fois. Et tu étais beaucoup chargé ?
J'étais pas mal chargé, ouais. J'étais pas mal chargé, j'avais un porte-bagages avec deux sacoches à l'arrière.
Okay.
Au-dessus de ces deux sacoches, j'avais ma tente plus mon tapis de sol. Et en plus, j'avais une sacoche de cadre qui prenait vraiment tout l'espace du cadre, et une sacoche de cintre, pardon. Donc ouais, j'étais pas mal chargé. Je devais avoir... je pense que mon vélo, en tout, on devait être à 30-35 kilos, quelque chose comme ça.
D'accord.
Sachant que le poids du vélo, il y a 13 kilos. Donc ouais, j'avais au moins 20 kilos de bagage. J'avais aussi de la nourriture, de l'eau, etc., qui faisait que ça alourdissait. Et notamment
avec du recul, t'étais trop chargé ?
Entière, tu vois. Mais, mais tu vois, ça marque énormément. Lui, ça l'a beaucoup marqué. Moi, ça m'a beaucoup marqué aussi. Et donc voilà, il y avait des échanges comme ça qui se faisaient. Mais en tout cas, je n'étais pas là à donner des cadeaux à tout le monde et à en recevoir aussi non plus. Je pense que le plus beau échange et le plus beau cadeau, c'était justement cette rencontre-là et ce moment, cet instant-là, aussi court soit-il, mais qui allait nous apporter à chacun l'un comme l'autre, quoi.
Est-ce que ça ne s'amplifie pas parce que vous savez que quelque part, vous ne vous reverrez jamais ?
Peut-être. En tout cas, moi, ça m'a fait découvrir vraiment d'apprécier le moment et de me dire en fait que le moment qu'on vit là, effectivement, probablement, cette personne-là, je ne la reverrai jamais de ma vie, tu vois. Vraiment, il y a de grandes chances pour qu'on ne se revoie pas, mais pareil, c'est OK. Genre, peut-être qu'on se reverra jamais, mais ça te demande d'encore plus apprécier le moment et la richesse de ce moment et de cet échange-là, quoi, de se dire... En fait, moi, je pars aussi du principe qu'on a tous quelque chose à apprendre de l'autre, finalement.
Oui.
Et je pense que oui, comme tu dis, c'est encore plus précieux si tu reverras peut-être pas cette personne. Après, comme je te disais, les personnes pour lesquelles j'ai eu un fort attachement et on a beaucoup échangé, c'est des gens avec qui je suis encore en contact sur WhatsApp, par exemple, où on se donne encore quelques nouvelles, etc. Et tu sais que peut-être que tu les reverras un jour, peut-être que tu les reverras pas, mais tu gardes
quand même... C'est génial quand même d'avoir des nouvelles.
Complètement.
Ouais, ouais,
complètement.
Échanger via WhatsApp ou ce genre de réseau, enfin...
Ouais.
C'est magique.
Ouais, ouais, clairement. Donc, je donnais pas à tout le monde mon numéro, je donnais vraiment aux personnes qui m'ont marqué. Et c'est plaisant de pouvoir avoir des nouvelles mutuelles, quoi.
Vous échangez avec quelle langue ?
Plutôt en anglais. Surtout en Afrique de l'Est, c'était vraiment plutôt en anglais. Et
d'accord.
Après, il y a des. En fait, si tu veux, Afrique de l'Est, c'est plutôt anglais. Et après, tu as le Swahili qui est la langue de l'Afrique de l'Est. Donc, c'est.
Oui.
Disons l'anglais, le Swahili. Et après, chaque communauté, chaque quartier peut aussi développer son propre langage, en fait. Donc, tu
d'accord.
peux avoir 3-4 langages. Tu peux avoir des gens qui ne parlent pas du tout anglais, qui vont parler que le Swahili, ou qui n'ont même pas du tout parlé Swahili, mais que leur langage. Et donc, du coup, des fois, tu te retrouves face à des gens avec qui tu n'y a aucun mot, tu n'as aucun mot en commun, quoi. Vraiment, tu ne parles pas du tout la même langue. Et moi, j'ai réussi à avoir des échanges de 10 minutes avec des gens... alors qu'on parlait pas un mot, tu vois, mais genre on rigolait, on se souriait, on montrait le vélo, tu vois, et t'arrives à communiquer alors que t'as aucun mot en commun, tu vois, et je trouve que c'est fascinant, quoi.
Ça, oui, j'allais exactement utiliser ce mot, c'est fascinant. En fait, ouais. On peut tous se comprendre, finalement.
Complètement. Et puis le sourire, tu vois, c'est une langue universelle. Donc,
oui.
Donc rien qu'avec
c'est
un
beau,
sourire,
ça.
T'arrives à communiquer et à échanger partout dans le monde.
Ah, c'est certain. Et tu penses que les pays que tu as préférés, si jamais tu en as préféré, c'était justement grâce au paysage ou aux rencontres que tu as pu faire ?
Bah, c'est drôle parce que j'ai un pays que j'ai préféré par rapport aux rencontres et un autre que j'ai préféré par rapport au paysage.
Lesquels ?
Le Soudan pour les rencontres, ça a été bouleversant. Et pour en termes de paysage, c'était la Namibie.
D'accord.
Namibie,
t'as pleuré pendant ce voyage ou pas ? Justement, de ces rencontres ou...
J'ai pleuré de... À la fin de mon voyage, en fait, bah justement, j'étais en Namibie. Et en fait, je me sentais ému de pouvoir pédaler dans de tels paysages. Et j'étais ému, en fait, à l'idée de me dire que ça allait bientôt être terminé, que j'étais bientôt sur la fin, qu'il me restait simplement un pays à traverser. Mais ouais, j'ai eu des vagues d'émotions énormes en Namibie où... c'est un pays où il y a 3 habitants par kilomètre carré, c'est une densité de population très faible, donc j'étais souvent très seul dans des étendues énormes, immenses, en plein milieu de désert, où t'as des gravels qui sont à perte de vue, mais sensationnels, splendides, et j'ai des images qui sont ancrées dans ma mémoire de me dire « Waouh, wow, t'es là, quoi !» en ayant ce paysage en tête, et en me disant « C'est juste exceptionnel, quoi !» Et ouais, avoir les larmes aux yeux, avoir les larmes qui coulent en roulant, et se dire « Waouh, ouais, c'est juste magique ce qui m'arrive, quoi !»
C'est beau quand tu le quand t'en parles, ça doit être ouais, fou cette sensation. Et du coup, t'as pas eu de grosses galères ou si ?
Si, j'ai eu des grosses galères. Bah, on parlait tout à l'heure de l'Égypte et de l'escorte policière. Pour moi, c'est une grosse galère.
Ah oui, j'imagine.
Parce que ça a été rude, ça a été long, ça a été compliqué. Et encore, là, je t'ai parlé d'un dixième des mésaventures avec les policiers.
Ah oui.
Quoi. Donc ouais, ça a été assez rude et je suis content de l'avoir fait au tout début de mon aventure parce que je suis pas sûr que j'aurais eu la force de subir tout ça après 6 mois d'aventure en ayant si jamais j'étais parti du Cap, quoi.
C'est qui tout double selon les gens, ça peut te freiner direct en te disant bon c'est bon j'arrête tout et je me barre ou effectivement comme tu dis peut-être qu'à la fin t'as moins la force et t'es courte, quoi.
Ouais, complètement. Bon après moi là ça allait très bien que c'était au tout début, mais au final, c'est cool parce que ça m'a direct mis dedans, en fait. En général,
oui.
Tu pars à l'aventure, t'es « Ouais, c'est génial, enfin, ça va être super, je vais vivre un truc de fou. » Et bim, t'arrives en Égypte, t'es déjà dans le dur, quoi. Tu te dis « Ok, bon, va falloir enquiller, quoi. » Donc ça, c'était une grosse galère. Après, j'ai eu, en Zambie, j'ai chopé un virus mystère qui m'a bloqué pendant une semaine. Donc pendant une semaine, vraiment impossible de faire quoi que ce soit.
J'étais hôpital et compagnie ou pas forcément ?
je suis allé à l'hôpital pour faire des examens sanguins et autres parce que j'étais vraiment mal, en fait. J'avais de la fièvre, je mangeais pas, j'avais des nausées, j'étais vraiment mal, impossible de pédaler. Donc, je me suis arrêté, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait des tests sanguins, j'ai fait un test Covid, j'ai tout fait et tout allait bien. Les résultats sanguins étaient parfaits, j'avais pas le Covid. Et je leur dis, non, mais moi, je suis en PLS, il y a forcément quelque chose. Et
donc, ils m'ont d'où le virus mystère.
C'était un virus mystère, quoi. Et ils m'ont filé des médicaments et je savais pas ce que c'était, mais je m'en foutais. En fait, je leur disais, mais donnez-moi ce que vous voulez, moi, je veux juste aller mieux, quoi. Et donc, je suis allé dans une pharmacie, ils m'ont filé ces médicaments et je suis resté pendant une semaine dans une guest house. Et pareil, ils ont trop, trop pris soin de moi, c'était vraiment génial.
Ah, c'est mignon.
Et au bout d'une semaine, je suis reparti et ça allait mieux, quoi. Mais ça m'a vraiment stoppé et impossible de savoir ce que c'était, quoi. Même aujourd'hui, là, ça reste un mystère. Je sais pas ce qui s'est passé, quoi.
Ah, c'est dingue.
Donc, il y a eu ça. Et puis aussi, fin d'aventure, la plus grosse galère de cette aventure, c'était à 150 km de mon arrivée au Cap, où c'était une fin de journée, vraiment sur la fin de journée. Donc, soleil couchant, j'allais m'arrêter 3 km plus loin. C'était vraiment sur l'arrivée. Et en fait, le soleil était couchant. Il y a un automobiliste qui vient derrière moi et qui est aveuglé par le soleil. Donc, il ne me voit pas et qui me fauche par derrière. Et donc, du coup, c'est un gros accident, en fait, à 150 km de l'arrivée. Donc, tu te dis, putain, je viens de faire 11 000 bornes et je me fais faucher à 2 jours. C'était vraiment à 2 jours de l'arrivée, quoi. Et donc là, ouais, je perds connaissance. Complètement défoncé. Et ouais, et en fait, je me réveille. Je suis sur le bord de la route et je sais pas comment je m'appelle, je sais pas ce que je fais là, je sais pas qui sont ces gens, je sais pas où je suis, je sais rien, tu vois.
Et donc, t'as une perte de mémoire sur le coup
Ouais, perte de mémoire, j'ai perdu connaissance, trauma crânien, perte de mémoire.
L'angoisse.
Et tu sais rien, et tu te regardes et t'es en sang sur les jambes, sur les mains et tout. Et après, c'est quand même revenu assez rapidement, où voilà, je me suis rappelé qui j'étais. Instinctivement, je me rappelle avoir énuméré tous les pays que j'avais traversés sur ma traversée de l'Afrique, donc ça revenait. Et puis après, bouger mes jambes, bouger mes bras, me dire « Ok, je ne suis pas paralysé, je n'ai pas un gros souci. Okay. » Et en fait, ça fait bizarre parce que tu as 15 personnes autour de toi et tu ne sais rien, en fait.
Et après, attends, mais sur le coup, tu dois te dire « C'est fini. »
Comment ça ?
Genre, mon aventure s'arrête maintenant, quoi.
Non, en vrai c'est ça.
C'est vrai ? Fait, c'est
à aucun moment, je me suis dit ça, tu vois. Alors, j'ai très vite compris que j'avais eu un accident et l'ambulance est arrivée, etc. Et mon premier réflexe a été de demander à quelqu'un déjà de me donner les choses les plus de valeur sur mon vélo, donc mon portable, ma GoPro et mon passeport.
D'accord.
Et après, j'ai assimilé le fait que j'ai eu un accident et mon premier réflexe était de me dire ok, bon, ça s'est passé, je peux pas aller à l'encontre, tu vois, j'y suis pour rien, j'ai pas traversé la route ou autre, c'est une personne qui m'est rentrée dedans et je pouvais pas l'éviter, c'est ok, c'est comme ça, ça fait chier, mais c'est comme ça, et maintenant je vais tout mettre en place pour finir mon aventure, tu vois, j'ai quand même quelques bornes à faire, il faut que je répare mon vélo, il faut que je me répare un petit peu moi,
oui,
et en fait là, ce qui mettait un peu sous pression, c'est de me dire que j'avais pris mon billet d'avion et j'avais 5 jours, en fait, pour me remettre, et parce que dans 5 jours, j'avais mon avion qui repartait, donc ouais, ça a été un peu une course contre la montre pour réparer mon vélo, me réparer moi. J'ai fait des examens à l'hôpital, des scanners pour savoir si j'avais pas une commotion cérébrale ou autre.
Et t'avais des blessures ?
J'étais énormément d'égratignures sur les doigts, sur les jambes. Heureusement, c'était un jour où il faisait hyper froid. Donc du coup, j'avais ma doudoune, j'avais mon pantalon, etc. Et j'avais mon casque, et chose que j'avais pas eu sur tout mon trajet en Afrique, je le mettais pas.
Ah, t'avais pas tout le temps mis ton casque ?
Je le mettais à chaque fois que j'étais sur une route passante, mais quand j'étais sur les petites gravels ou autres, je le mettais pas.
Ok.
Et maintenant, je le mets tout le temps, bien sûr. Mais, mais heureusement que j'avais mon casque, parce que le casque a été fracturé en deux et j'étais râpé sur tout le côté de la tête. Donc je pense que si je l'avais pas, je serais plus là, quoi. Donc voilà, il y a eu pas mal de soins aussi, de médicaments. J'allais chez les infirmières et les infirmiers pour me refaire le strap, les bandages, etc. Des médicaments, l'hôpital. Et puis après, trouver un vélociste qui puisse me réparer mon vélo. Et voilà, à l'image de cette aventure, j'ai trouvé quelqu'un d'hyper bienveillant, hyper sympa, qui s'appelait Nils, qui avait un endroit pour réparer les vélos, un bicycle shop au Cap, quoi. Et donc, je suis allé là-bas, j'ai réparé mon vélo et j'ai pu faire les derniers kilomètres pour arriver à Cape Town à vélo la veille de partir en avion, quoi.
Donc l'aventure, c'est dingue.
Elle s'est bouclée comme ça, quoi. Donc c'était assez fou, ouais.
Et pour toi, oui, ça fait partie de l'aventure, quoi.
Ah ouais, carrément. En fait, moi je dis que la mésaventure fait partie de l'aventure.
Et en fait, c'est sûr.
Ces mésaventures-là, tu vois, elles font partie du truc. Je peux pas les enlever, je peux pas. Et voilà, ça fait partie de ça. Et c'est comme ça, en fait. Tu sais pas en partant ce qui va t'arriver, les galères, mais tu sais pas aussi les choses extraordinaires que tu vas vivre.
Oui, c'est certain.
C'est aussi ça qui est bien dans l'aventure, c'est que tu pars, tu as une idée en tête, mais tout ce que tu vas vivre dans le laps de temps pour lequel tu vas faire ton aventure, tu sais pas ce qui va se passer. Globalement, tu sais pas. Tu sais pas les rencontres que tu vas faire, les paysages que tu vas voir, les galères que tu vas avoir. Et je trouve que c'est juste génial, en fait, de pouvoir se dire... je pars, je vais faire ça, mais entre le point A et le point B, tout peut arriver, quoi. Et là, en l'occurrence, sur cette aventure en Afrique, c'était vraiment intense et énormément de choses sont arrivées, des bonnes choses comme des mauvaises aussi, avec cet accident notamment, quoi.
Mais c'est fou qu'il arrive à la toute fin. Enfin, c'est incroyable, ça.
Ouais, c'est clair. Franchement, je me dis, c'est quand même fou. Tu fais 11 000 km et, et à 150 bornes de l'arrivée, il t'arrive ça, quoi. Donc,
mais attends, Riri, il était où quand tu étais à l'hôpital?
Il était avec moi, il était à mon chevet. En fait, quand l'ambulance est arrivée, il y avait les policiers aussi, et les policiers disaient, nous on récupère le vélo et toi tu vas à l'ambulance. Et j'aurais dit non, moi mon vélo reste avec moi, parce que je savais que ça allait être une galère ou autre. Et donc du coup, on a mis le vélo dans l'ambulance et il est resté avec moi, il était dans la chambre d'hôpital et tout. Mais dans un sombre état pareil, parce que Riri, il était vraiment... Il est méga solide, hein, parce que le cadre n'a pas bougé, mais les roues étaient pétées, le cintre était complètement déformé, tous les bagages étaient complètement éventrés, enfin, il avait pris sévère, quoi.
Mais t'as pu savoir à quelle vitesse a été le choc ?
Non.
Non ?
Je sais pas du tout. Moi, tout ce que je me rappelle, c'est simplement voir les paysages tourner en rond, vraiment sur ma chute, et après...
Oui, voilà, ça, tu t'en rappelles, le moment où t'es éjecté quelque part, enfin...
Je me rappelle juste voir les paysages tourner et c'est tout. Je ne me rappelle pas être éjecté, je ne me rappelle pas. Après, la personne qui m'a percuté s'est arrêtée pour dire je t'ai pas vu, c'était le soleil, etc. Et voilà, mais non, je ne sais pas. Et à ce moment-là, tu n'as pas la présence d'esprit de dire tu roulais à quelle allure, c'était quoi ta voiture ?
Oui, je me doute.
Tu es juste là à te dire vas-y, cool, je suis en vie, maintenant on va de l'avant et puis voilà. Quoi, mais non, je ne sais pas du tout.
Mais ton billet, tu viens de dire que tu l'avais pris. À quel moment tu as décidé de prendre ton billet tel jour ?
Je l'ai pris quand je suis à la fin de la Namibie, début d'Afrique du Sud. En fait, il me restait... J'ai dû faire 700 et 800 km d'Afrique du Sud. Et donc, du coup, j'ai estimé à peu près le nombre de jours que j'allais arriver en incluant quelques jours pour visiter le Cap.
Oui.
Et j'ai pris mon billet d'avion. En me disant, j'essaye de pas non plus de le prendre au dernier moment parce que sinon financièrement ça va être très cher. Et donc j'avais calculé ça et j'avais calculé le fait que j'arriverais à peu près à telle période. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris mon billet d'avion. Quelques semaines, deux semaines et demie, trois semaines maximum avant de le prendre, quoi.
D'accord, c'est drôle de se dire que finalement, oui, ta fin a été hyper accélérée parce que, comme tu dis, c'était un contre-la-montre parce que tu avais ton billet retour, quoi.
Ouais, complètement. Et du coup, je me dis aussi, heureusement que j'ai pas pris mon billet retour avant même de partir. Je me suis pas dit, vas-y, je tape sur une aventure de 6 mois ou autre. Et au moins, j'étais libre, en fait, de partir sur cette aventure-là. Et quoi qu'il arrive, j'avais pas de deadline, en fait, au final. Et donc, c'est vraiment une facilité, une décharge mentale, en fait, de pas se dire, putain, faut que je me dépêche parce que y a mon avion qui m'attend ou autre. Et cet exercice-là,
se lâcher prise.
Ouais, c'est exactement ça. Et finalement, je ne l'avais plus du tout les deux ou trois dernières semaines parce que je savais que j'avais cette pression de devoir arriver à temps. Et évidemment, l'Afrique du Sud, tu as du vent de face de malade. Et donc, c'est dur et tu dois avancer. Et tu te dis, pourquoi j'ai pris mon billet d'avion, tu vois? Mais voilà, je l'avais vraiment pris, je pense, pour moi, au dernier moment où je pouvais le prendre dans la limite du possible, et ça n'a pas été un souci, à part pour cette mésaventure-là, cet accident et autres, mais j'ai pu aller dans l'avion, j'ai pu rentrer, il n'y a pas eu de problème.
T'as pu visiter le Cap au moins ou pas?
Très rapidement, très très rapidement. Ah ouais. Ouais, très rapidement parce que j'ai fait un tour à vélo et puis après je suis allé à Table Mountain qui est vraiment un point de vue super sur le Cap, mais je l'ai pas visité comme je voulais le visiter de base, mais la priorité c'était de terminer l'aventure donc voilà, peut-être que le Cap j'y retournerai un jour pour vraiment visiter.
D'accord, c'est incroyable, incroyable. J'ai une dernière question, c'est de savoir, mais ce sera peut-être difficile, hein, vu l'aventure que tu as vécue. Tu connais la DeLorean, c'est la voiture
Ouais.
de Retour vers le futur. Si je t'en donnais les clés, est-ce que tu pourrais revivre un seul moment? Ce
De
serait
cette
lequel?
aventure-là,
Ouais.
je pense que je revivrai ce. Oh, c'est dur. On peut pas revivre deux ou trois autres moments? C'est juste
Un
un.
seul.
Le seul et l'unique. Je pense que je revivrai ce. J'irai en Namibie parce que, comme je te disais, les instants d'émotion que j'ai eu en Namibie, ils étaient magnifiques. Donc je pense que j'irai en Namibie et je me rappelle de cette journée où j'étais extrêmement ému. J'avais passé un bivouac le soir qui était vraiment extraordinaire. C'était vraiment magnifique où j'étais sur une colline avec un ciel incroyablement étoilé, un coucher de
Ouf.
soleil magnifique sur les dunes. C'était sensationnel. Et ouais, j'irai en Namibie sur cette période-là. Je pense sur les 2 jours qui ont précédé, je pense, ce moment d'émotion intense. Parce que je me rappelle aussi avoir, j'étais dans le désert du Namib et je me rappelle avoir rencontré des gens extraordinaires. Parce que en fait, le Namib, ça reste un désert qui est assez touristique, il y a quand même pas mal de touristes. Et les gens sont très surpris de voir quelqu'un à vélo en plein milieu du désert et se disent qu'est-ce que ce mec fout là? Et donc il y a beaucoup de gens qui s'arrêtaient à ma hauteur pour me demander si j'avais besoin de nourriture,
D'aide.
d'eau ou autre. Et j'avais rencontré un couple de Hollandais. Qui était retraité, qui avait 75 ans, 75-80 ans, je crois, et qui était en train de faire un tour du monde avec leur 4x4, et
Wow.
qui m'était venu en aide, qui m'avait donné une omelette qu'ils n'avaient pas mangée du matin parce qu'ils étaient à l'hôtel avant, qui m'avait donné des fruits secs, qui m'avait vraiment régalé. Et on était là en plein milieu du désert, il faisait chaud, il y avait du vent, presque tempête de sable, et on s'est arrêté 10 minutes juste pour parler, pour échanger. Et donc, en fait, ce laps de temps-là de 2 ou 3 jours, j'ai vécu énormément de choses de ce désert, ces rencontres, cette nuit en bivouac et cette émotion à la fin. Donc je pense que ouais, si tu me donnes les clés de la DeLorean, je pense que je reviendrai à ce moment-là précis. Ouais.
D'accord. Bah, c'est fou. Bah, merci beaucoup. Attends, j'ai une toute, toute dernière question. Est-ce que tu as une idée de ta prochaine aventure?
Bah évidemment.
J'ai hâte.
Évidemment, j'ai des idées d'aventure pour les 10 prochaines années.
T'en as plein la tête, ouais.
Non, ma prochaine aventure, là déjà, pour cet été, je vais traverser les Alpes à vélo. Je vais partir sur une petite aventure à vélo. Je vais traverser les Alpes et faire quelques petits sommets des Pyrénées. Voilà, ça va m'occuper pour le mois d'août. Et après, il y a une plus grosse aventure qui se prépare pour la fin de l'année où je vais partir sur le continent américain. Je t'en dirai pas plus, mais je partirai sur le continent américain. T'as failli avoir l'exclu là. Je partirai sur le continent américain et je partirai pareil sur une période qui s'approchera de 6 mois, je pense, et ça sera pas à vélo.
Ok,
Voilà.
super. Mais
Tenez-vous
en tout cas,
informés.
Quentin,
Suivez les suites des aventures pour en savoir plus.
franchement, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Ton aventure avait l'air incroyable. Ça donne vraiment envie de partir. Et ouais, comme tu dis, de lâcher prise, quoi.
Merci à toi pour ce moment, c'était chouette, c'était trop chouette de pouvoir parler de tout ça et puis au plaisir d'en rediscuter à l'occasion d'un podcast ou de vive voix sur une prochaine aventure.
Avec grand plaisir. À bientôt.
Salut Fantine, ciao!